La caractéristique principale du livre des juges est exprimée par cette parole « En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qu'il jugeait bon ». Fin de citation. Cette affirmation traduit une période d'affaiblissement à la fois spirituel, politique et militaire de la nation d'Israël. Au début de son livre, le prophète Ésaïe décrit les trois étapes qui sont à l'origine de la chute des nations. Premièrement, l'apostasie spirituelle, qui est normalement suivie par la décadence morale. Celle-ci amène alors l'anarchie politique et le déclin économique. Le général Douglas MacArthur, commandant suprême des forces alliées du Pacifique, a dit ceci. Il n'y a pas d'exemple historique d'une nation sujette à la déchéance morale qui n'ait pas été suivie d'une dégradation politique et économique. Soit il y a eu un réveil spirituel qui a triomphé de la décadence morale, soit la détérioration progressive a débouché sur un désastre national. Fin de citation. L'intégrité du peuple de Dieu ne tenait qu'à un fil à cause de la dégradation de ses mœurs. En fait, les Israélites firent encore pire que les Cananéens. On connaît la suite. Déportation, diaspora, Jérusalem rasée, l'antisémitisme endémique jusqu'aux pogroms et les camps d'extermination. Le jugement de l'Éternel sur son peuple fut terrible, et moi dans tout ça. Eh bien, un texte du Nouveau Testament nous dit ceci. « Prenez donc garde, ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. » Les Israélites qui ont refusé d'écouter celui qui les avertissait sur la terre n'ont pas échappé au châtiment. À combien plus forte raison en sera-t-il de même pour nous si nous nous détournons de celui qui nous parle du haut des cieux ? Fin de citation. C'est par les Écritures que Dieu parle. Mais est-ce que je prête vraiment attention ? Le livre des juges est l'histoire d'un nombre de chefs juges choisis par l'Éternel pour délivrer la partie de son peuple du joug de la servitude que Dieu lui a imposée pour le punir de son idolâtrie. Mais avec le temps, les choses empiraient progressivement et les dirigeants successifs eux-mêmes manifestaient des travers de plus en plus grossiers. La déchéance morale et spirituelle était quasi perpétuelle. Si on ajoute à ce problème les difficultés et l'influence néfaste causées par le maintien d'une forte présence cananéenne en Palestine et la fragmentation de la nation qui, ayant rejeté le culte de l'Éternel, n'a pas d'autre lien pour les unifier, on peut se demander si la nation d'Israël ne va pas simplement être rayée de la carte. Cette situation lamentable appelait un régime politique plus à même de mettre un terme à la décadence, à la pression des ennemis d'Israël et d'achever la conquête du pays, de réaliser l'unité du peuple et de le conduire sur une voie d'obéissance à l'Éternel. Vers la fin du livre, l'auteur répète à quatre reprises, et je cite, « À cette époque, il n'y avait pas de roi en Israël ». Comme pour dire « Voilà pourquoi de telles catastrophes arrivèrent ». Indirectement donc, l'auteur favorise la monarchie. Plusieurs chefs juges, malgré des défauts grossiers, font partie des héros de la foi. J'ai déjà cité Samson. En effet, mû par l'Esprit de Dieu et grâce à leur action à des moments critiques de l'histoire d'Israël, ces hommes ont empêché Israël de faire naufrage, de disparaître à jamais et d'annuler ainsi le plan divin. En libérant le peuple de Dieu de ses ennemis, ses juges chefs annonçaient le grand libérateur, Jésus-Christ. Il est cependant entendu qu'il les surpasse infiniment, déjà par sa vie d'obéissance parfaite à Dieu son Père, mais aussi par l'ampleur de ses victoires. D'une part, à la croix, il a triomphé à la fois sur le péché et contre Satan. D'autre part, à la fin des temps, lors de la dernière bataille d'Armageddon, il vaincra une fois pour toutes tous les ennemis du peuple de Dieu. Je commence maintenant à lire le premier chapitre du livre des Juges. Après la mort de Josué, les Israélites consultèrent l'Éternel pour savoir quelle tribu devait aller la première attaquer les Cananéens. L'Éternel répondit, « C'est Juda qui ira la première. Je livre le pays en son pouvoir. » Alors, les hommes de Juda dirent à ceux de Siméon, frères de Juda, « Venez avec nous à la conquête du territoire qui nous a été attribué. Nous combattrons ensemble les Cananéens. Ensuite, nous vous aiderons également à conquérir le territoire qui vous est échu. » Les gens de Siméon se joignirent donc à eux. Verset 1-3. Cette conquête qui s'annonce fait penser à une partie de chasse, et pourtant, c'est bien d'une campagne militaire qu'il s'agit. C'était par l'intermédiaire de l'Ourim et du Thummim, des objets cultuels qu'utilisait le grand prêtre, que les Israélites consultaient l'Éternel. Après leur installation sous Josué, la suite des conquêtes incombait aux tribus individuelles. Chacune était supposée capable de se débrouiller seule avec l'aide de Dieu. De plus, Juda était la plus puissante et n'aurait donc pas dû avoir recours à l'aide de ses frères. Cependant, ces deux tribus étaient très liées. Le territoire de Siméon était au sud et enclavé dans celui de Juda. Et leur ancêtre fondateur avait la même mère, Léa, la première femme de Jacob. Cela explique leur coopération et leur alliance militaire qui permettra d'assurer en partie du moins la conquête du territoire revenant à Juda d'abord, puis celui de Siméon ensuite. Je continue le texte en compressant. Et Juda se mit en campagne. L'Éternel leur donna la victoire sur les Cananéens et les Phérésiens. Ils bâtirent 10 000 hommes. En effet, ils tombèrent là sur le roi Adoni-Bézek et l'attaquèrent. Il s'enfuit, mais ils le poursuivirent, s'emparèrent de lui et lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Adoni-Bézek s'exclama, « 70 rois dont on avait coupé les pouces des mains et des pieds ramassaient les miettes qui tombaient sous ma table. Dieu m'a rendu ce que j'ai fait. » On l'emmena à Jérusalem et c'est là qu'il mourut. Versets 4 à 7. Les Cananéens habitaient la plaine dans des villes fortifiées situées sur les routes commerciales. Les Phérésiens étaient les populations rurales. En gros, c'est un peu comme à l'époque féodale, avec le château fort d'un côté et des serfs qui occupent des chaumières de l'autre. Les 70 rois aux pouces coupés désigne les chefs de cité-état du sud de Canaan, conquis par le despote Adoni-Bézek. Il était plutôt du genre cruel. Cependant, cette pratique avait aussi un objet militaire. En effet, sans pouces, on ne peut être chef car incapable de tenir une arme ou de conduire une armée. Quoi qu'il en soit, les Israélites lui rendent l'appareil. Humilié à son tour, il reconnaît la juste application de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Je continue en compressant. Les hommes de Juda attaquèrent Jérusalem et s'en emparèrent. Ensuite, ils partirent combattre les Cananéens qui occupaient la région montagneuse, le Négev et la plaine côtière. Versets 8 à 9. C'est la partie sud-ouest non fortifiée de Jérusalem qui fut conquise par Juda. Mais la ville principale était une citadelle fortifiée pratiquement imprenable. Néanmoins, cette action neutralisa les habitants qui restaient et qui auraient pu secourir leurs compatriotes en proie aux attaques israéliennes. La campagne militaire de Juda est extensive et vise l'ensemble de son territoire. Elle inclut la région montagneuse, une épine dorsale s'étendant du nord au sud, le Négev au sud formé d'un haut plateau, aujourd'hui partiellement cultivable, lorsque les pluies hivernales ont été abondantes. Et en troisième lieu, la plaine côtière, une contrée vallonnée reliant le plateau à la plaine maritime. Le texte continue avec des noms de villes et de peuplades conquises par Juda, et dont l'histoire a déjà été racontée dans le livre de Josué que j'ai traité. La ville d'Hébron, située à 30 km au sud de Jérusalem, tomba. Elle deviendra la capitale du royaume sous le règne de David. Et puis, une anecdote nous est racontée. Caleb, l'un des deux espions avec Josué, qui furent les seuls de la génération sortie d'Égypte à entrer en terre promise, reçut Hébron en héritage, mais décida de conquérir Débir, qui signifie la ville des livres. Alors, il offrit comme récompense sa fille Aksa, à qui prendrait la ville. Et ce fut Othniel, son jeune frère ou son neveu, qui prit à la fois la ville et Aksa comme butin de guerre. Elle reçut une propriété en dot de son père ainsi que des sources d'eau, car la région est particulièrement aride. Othniel est important, il deviendra le premier juge. La famille de Caleb était issue d'un clan auquel Moïse s'était lié par mariage et qui avait rejoint les Israélites après leur sortie d'Égypte. Cette ville de Débir était le centre culturel des Cananéens et se trouve à mi-chemin entre la mer Morte et la Méditerranée. Ces détails historiques et géographiques sont un peu fastidieux, mais ils donnent de la chair au texte et du poids à sa véracité. La campagne militaire se poursuit donc avec des conquêtes au bénéfice des deux tribus alliées. Les villes du sud et de la plaine maritime du sud-ouest sont également conquises. Je continue plus loin. Les hommes de Juda se joignirent à ceux de Siméon, frère de Juda, pour battre les Cananéens qui habitent Tsephath. Ils en exterminèrent la population et détruisirent entièrement la ville pour la vouer à l'Éternel, et on lui donna le nom de Horma. Les gens de Juda s'emparèrent également de Gaza, d'Ascalon et d'Écron, ainsi que des territoires voisins de ces villes, versets 17 à 18. Tsephath, tout au sud, était consacré aux divinités païennes dont le culte était effroyable. Selon l'ordre reçu de l'Éternel, certaines villes devaient être vouées à l'interdit, c'est-à-dire réduite en cendres parce qu'il fallait purifier le pays de toutes les pratiques qui offensaient le Dieu saint. Les trois autres villes furent vaincues, mais les habitants épargnés et les Israélites ne les occupèrent pas. Elles se trouvent dans la plaine maritime du sud-ouest et faisaient partie du pays des Philistins, gens originaires de Crète. Jusque-là, on peut dresser un bilan positif des progrès réalisés au sud. Cette première étape a plutôt bien commencé. L'Éternel fut consulté, ses instructions suivies et son rôle dans la victoire reconnu. Je continue le texte en compressant. L'Éternel lui-même était avec eux, et c'est ainsi que les hommes de Juda purent conquérir la région montagneuse. Ils ne réussirent pas à déposséder les habitants de la vallée, car ceux-ci disposaient de chars de combat bardés de fer. Les descendants de Benjamin ne dépossédèrent pas les Yébousiens qui habitaient Jérusalem. Ceux-ci y vivent encore aujourd'hui avec les Benjaminites. Versets 19 à 21. Juda a eu peur des chars de fer des habitants de la vallée. Et Benjamin a renoncé à déloger les habitants d'une forteresse qui constitue pourtant un verrou entre le sud et le nord. Voici déjà quelques ombres au tableau. D'ailleurs, dans le chapitre suivant, l'ange de l'Éternel va reprocher à toutes les tribus d'Israël leur manque de foi parce qu'elles se sont dérobées devant leur devoir qui était d'expulser les Cananéens du pays. Je continue le texte en compressant. Les descendants de Joseph partirent de leur côté attaquer Bethel et l'Éternel fut avec eux. Verset 22. Comme Juda et Siméon, les deux tribus descendants de Joseph s'allient militairement. Ne pouvant tolérer une présence hostile sur leur frontière sud, ils prennent la ville de Bethel, pourtant allouée à Benjamin. Je passe sur des détails saugrenus et pittoresques et continue plus loin où les choses commencent à se gâter. Les hommes de Manassé ne dépossédèrent pas les habitants de, suit alors une liste de forteresses s'étendant d'est en ouest et séparant les tribus du centre de celles du nord. Je continue. Ils ne dépossédèrent pas non plus les habitants des localités qui dépendaient de ces villes. Les Cananéens continuèrent donc à se maintenir dans cette région. Lorsque les Israélites furent devenus plus forts, ils leur imposèrent des corvées, mais ils ne les dépossédèrent pas. Versets 27 à 28. D'abord, et par manque de foi en Dieu, les descendants de Manassé sont en échec. Ensuite, lorsqu'ils sont finalement d'attaque, ils exploitent les Cananéens au lieu de les chasser. C'était de la désobéissance pure et dure aux ordres de l'Éternel. Le texte continue avec la même litanie. Les gens d'Éphraïm ne dépossédèrent pas les Cananéens établis à. Ceux de Zabulon ne dépossédèrent pas non plus les habitants de. Les Cananéens habitèrent donc au milieu des gens de Zabulon qui leur imposèrent des corvées. Versets 29 à 30. Les Israélites de Manassé, Éphraïm et Zabulon imposent des travaux forcés aux Cananéens. Ils se contentent de tirer un profit mercantile de leur domination ultérieure au lieu de les chasser. Je continue. Les gens d'Azer ne dépossédèrent pas les habitants de, suit alors une liste de villes qui constituera plus tard la Phénicie. Elles vont jusque dans la banlieue sud de l'actuel Beyrouth. Je continue. Les descendants d'Azer s'établirent donc au milieu des Cananéens qui occupaient le pays, car ils ne les dépossédèrent pas. Les gens de Nephtali ne dépossédèrent pas les habitants de. Suit ici aussi des noms de villes. Ils s'installèrent au milieu des Cananéens qui habitaient le pays et ils soumirent à des corvées les habitants de ces deux villes. Versets 31 à 33. Cet échec d'Azer coupe Israël de la Méditerranée. Les autres ports étaient dans le sud entre les mains des Philistins. Azer et Nephtali font pire que les tribus précédentes, puisque, eux, ils s'installent carrément au milieu des Cananéens tout en les exploitant, sans doute parce qu'ils étaient supérieurs au niveau militaire. Je continue avec une situation qui se dégrade encore. Les Amoréens refoulèrent les Danites dans la région montagneuse et les empêchèrent de descendre dans la vallée. Les Amoréens continuèrent donc à se maintenir à. Suit des noms de villes. Mais les descendants de Joseph furent de plus en plus puissants et leur imposèrent des corvées. Versets 34 à 35. La tribu de Dan finira par renoncer à son territoire et émigrera en masse dans ce qui est aujourd'hui l'extrême nord d'Israël. Une des villes mentionnées était un centre de culte solaire et aurait dû être réduit en poussière. Les descendants de Joseph étaient plus forts, mais, en bons commerçants, ils ont préféré, eux aussi, exploiter les habitants de toutes les villes qui revenaient aux Danites plutôt que de les conquérir. Quelle tragédie que cette liste de défaites. Ce premier chapitre se termine sur une longue litanie d'échecs dus au manque de foi et à la paresse des Israélites qui se satisfont de cohabiter avec les Cananéens. Le déclin de la foi et de la fidélité du peuple de Dieu s'est dessiné très tôt dans leur histoire. Une tribu, celle de Dan, touche même le fond puisqu'elle est chassée de son héritage. Les Cananéens s'accrochent au pays que l'Éternel voulait purifier de toute idolâtrie. On voit se dessiner de grands problèmes à l'horizon à cause de la perte de la côte phénicienne, la présence des peuplades païennes partout et la subsistance de lieux d'idolâtrie. Le narrateur met en évidence la nature inachevée de la conquête et en fait ressortir les amères conséquences. Ainsi, après un début qui s'est à peu près bien passé dans le sud, c'est la glissade. Des nuages sombres s'accumulent. La situation spirituelle des Israélites s'aggrave de jour en jour, que ce soit ceux du centre ou du nord du pays. Et pourtant, quel élan d'enthousiasme n'avait-il pas montré lorsque Josué les avait mis au défi de servir l'Éternel de tout leur cœur? Mais il va vite apparaître que ces paroles furent dites en l'air, un peu trop vite. Il est en effet facile de parler, de promettre et d'affirmer, mais quand il s'agit d'agir en fonction de ce qu'on a dit, c'est une toute autre affaire, surtout dans le domaine spirituel. Israël va maintenant commencer sa descente aux enfers, pour ainsi dire. Mais avant que je ne jette la pierre aux Israélites, selon l'expression, je ferais sans doute bien de me regarder dans la glace et de sonder mon cœur, mes motivations et mes comportements.